enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous quelques propos que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il y a quelques mois, ma femme m'a envoyé un message par Internet. Un petit message d'encouragement, vous savez, ce qu'on appelle un PowerPoint. Et puis, bon, de temps en temps, elle m'envoie des choses, et puis avec un petit mot doux. Et puis, je lui dis merci. J'ai lu son PowerPoint, et puis je l'ai jeté dans la poubelle. Ben oui, on ne peut pas tout garder, hein. Et puis, quand je l'avais jeté à la poubelle, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me disait que il fallait que je reprenne ce truc-là et que je le relise. Et quand je l'ai relu attentivement, ce PowerPoint m'a fait du bien. Et parce qu'il m'a fait du bien, je voudrais, le partager avec vous ce soir. Karine désirait me rappeler que, nous sommes créés par Dieu pour accomplir des choses merveilleuses. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Pour ceux qui connaissent le Seigneur, c'est une évidence. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, je voudrais vous laisser ce message ce soir. Vous êtes créés pour accomplir des choses merveilleuses, de grandes choses. Dieu a un plan pour vous. Jésus-Christ a un plan pour vous. Le titre de ce petit message, c'était la parabole du crayon. Alors je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ce petit truc, la parabole du crayon. C'est un fabricant de crayons qui parle à son crayon et qui lui donnait cinq conseils, cinq choses importantes que son crayon devait savoir. Et ce soir, je voudrais vous laisser ces cinq choses en partage parce qu'elles nous édifient, parce qu'elles nous font du bien, parce qu'elle nous rassure dans la vie de tous les jours, parce que nous nous rendons compte que Dieu est fidèle et que Dieu a besoin de nous. Ça paraît extraordinaire de dire que Dieu a besoin de nous. Est-ce que vous croyez cela? Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Il a besoin de nos talents. Il a besoin de nos dons. Il nous a donné des dons. Et il a besoin de ses dons. Il ne les a pas donnés comme ça, par hasard. Dieu a besoin de chacun de nous. Alors, le premier conseil que donne le créateur du crayon à son crayon, c'est « Laisse-toi guider par la main de celui qui t'achètera. » Laisse-toi guider par la main. Dans le psaume 37, verset 5, nous lisons « Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui. » C'est lui qui agira. C'est lui qui agira. Dans l'évangile de Marc, Marc nous raconte un jour que on voulait amener à Jésus des enfants, des petits-enfants pour qu'ils le touchent. Il y avait beaucoup de gens autour de Jésus, j'imagine la scène. C'est pas écrit en détail comme ça, mais j'imagine la scène. J'imagine que les gens étaient autour de Jésus. Jésus faisait des miracles, il chassait des démons, il guérissait des malades. Donc, une foule était là. Et on vient là avec des enfants pour que Jésus les touche. Et au bout d'un moment, cette scène énervait les disciples. Et les disciples se mirent à chasser les enfants. Et Jésus, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et au verset 14, voilà ce qui est écrit. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. J'imagine que Jésus, à un moment, a dû prendre un enfant sur ses genoux et a invité ses disciples à devenir comme le petit enfant qu'il avait sur ses genoux. Jésus désire qu'on lui fasse totalement confiance. Alors on dit oui, moi je fais confiance à Dieu et on est tous pareils. Moi je me compte dans le lot. Je fais confiance à Dieu, Mais face aux difficultés, face aux luttes, face aux combats, mon premier réflexe, c'est de réfléchir comment que je vais me dépatouiller de ma situation. Et je ne laisse pas Dieu agir, en tout cas dans un premier temps. Faites confiance au Seigneur. Tu pourras faire de grandes choses dans ta vie, mais seulement à condition de permettre à Dieu de te tenir par la main. Le deuxième conseil, et même c'est un avertissement là que le créateur du crayon va donner à son crayon, de temps en temps tu devras passer par l'aiguisage si tu veux devenir un bon crayon. De temps en temps, parfois, on doit mettre la tête dans le taille-crayon. Et c'est pas évident, ça fait pas du bien. J'ai emmené un crayon ce soir avec moi. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Parfois on doit rentrer dans le taille-crayon et Dieu tourne, nous tourne dans le taille-crayon et ça fait un copeau. Je nettoierai hein, les sœurs qui font le ménage. Je ramasse les déchets. Chaque fois qu'un copeau part, c'est comme si un péché partait de notre vie. C'est comme si Dieu nous débarrassait peu à peu de nos fautes, de nos transgressions. Je disais dimanche, il y a un peu plus d'une semaine, que parfois il est bon de regarder en arrière et de se souvenir de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et lorsque je regarde dans ma propre vie, je regarde en arrière, eh bien je me rends compte de tout ce que Dieu a changé dans ma vie et je me réjouis. Je me réjouis d'avoir vu et de continuer à voir des sales habitudes que Dieu a mis en évidence dans ma vie, qu'il a débarrassé, ôté, des péchés qu'il a ôté dans ma propre vie, ce qui m'a permis de m'approcher toujours plus de lui, ce qui m'a permis de rentrer en contact avec lui, ce qui m'a permis de toucher au surnaturel de Dieu, ce qui m'a permis de voir sa puissance et son autorité dans ma vie, ce qui m'a permis de voir, eh bien aussi, des démons chassés lorsque je priais, parce que tout simplement, avant, Dieu avait ôté dans ma vie, dans ma propre vie, des démons également qui régnaient et qui avaient des droits dans ma vie. Laissons-nous tailler par le Seigneur. Oui, c'est pas toujours agréable. C'est pas marrant d'être humilié. C'est pas marrant de s'humilier. Mais cela nous fera grandir. On doit mettre la tête dans le taille-crayon. Au fur et à mesure qu'on grandit dans notre relation avec le Seigneur, le taille-crayon de Dieu va agir. Et puis on va devenir de plus en plus petit. Mais dans la main de Dieu, de plus en plus maniable également, hein? De plus en plus précis, et plus on deviendra petit, à la fin de notre vie, on sera tout petit. Et puis Dieu dira, ben maintenant tu peux rentrer. Tu as fait du bon boulot, tu peux rentrer. Rentre dans la joie de ton maître. Jésus dit, dans Jean 15, verset 1er, « Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, ben il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, c'est-à-dire il le taille, il le coupe, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Avez-vous envie de porter du fruit, mes amis ? Avez-vous envie de gagner des âmes? C'est mon souci tous les jours, Seigneur. Quand on prie avec mon épouse, Seigneur, mets des âmes sur notre chemin. Permets-nous d'être des témoins vivants de ta gloire. Et parfois, je me pose la question, combien d'âmes tu as réussi à gagner cette année? Combien d'âmes ont donné leur cœur au Seigneur à cause de ce que tu leur as enseigné, à cause de ton témoignage, à cause de ta vie, à cause de ce que tu es? Parce que tu as réussi peut-être à les comprendre, parce que tu as peut-être réussi à te mettre à leur niveau, à entrer dans leur peau, à vivre ce qu'ils vivaient. La troisième recommandation du Créateur à son crayon, il lui dira, tu seras en mesure aussi de corriger toutes tes erreurs. Et c'est pour ça qu'il a mis à l'arrière du crayon une gomme, la petite gomme là derrière. Tu seras en mesure de corriger toutes tes erreurs. Nous avons un exemple dans la Bible d'un homme qui a combattu Dieu de toutes ses forces, de toute son énergie. C'est l'exemple de Saul, Paul, celui qui est devenu l'apôtre Paul. Au chapitre 8 et au chapitre 9 des Actes, la Bible nous dit que Paul se battait contre l'Église. C'était un homme qui ravageait même l'Église, nous dit la Bible expressément. Il ravageait l'Église. C'est-à-dire qu'il faisait des dégâts dans l'Église. Il faisait emprisonner des gens. Étienne a été lapidé. Paul était présent et il acquiesçait. Peut-être même c'était lui qui avait donné l'ordre de la lapidation d'Étienne. Mais un jour, il a rencontré Jésus. D'une manière violente, certes, il a été arrêté par Jésus-Christ. Et Paul, à partir de ce moment-là, va passer par le taille-crayon. Et il va tout faire dans sa vie pour effacer, corriger ce qu'il avait fait, le mal qu'il avait fait. Il s'est mis à travailler pour Dieu, pour devenir l'un des plus puissants témoins de Jésus, au point de marquer l'histoire de manière indélébile. Saint Paul. Tout le monde connaît Saint Paul. Dieu nous encourage à rectifier nos erreurs. Il ne s'agit pas de prendre conscience de nos erreurs. C'est bien de prendre conscience de ses erreurs, de ses fautes. Mais Dieu nous demande aussi de corriger nos fautes, de rectifier nos erreurs. Il nous demande de demander pardon à celui à qui l'on a fait du tort, à celui que l'on a offensé. C'est sûr que ce n'est pas facile. Il faut s'humilier, il faut s'abaisser. Mais Dieu nous demande de faire cela. Quelqu'un dira que le pardon, et c'est une réalité, parce que je l'ai expérimenté, le pardon est une puissance qui nous libère. Le pardon est une puissance qui nous affranchit. Dieu veut nous apprendre à restituer ce que l'on a peut-être subtilisé, volé, ce qui n'était pas à nous. Je travaillais dans une grande usine pendant 23 ans et un jour, un frère qui venait de se convertir est venu me voir et sur notre lieu de travail. Il me dit « Christian, j'ai un problème. Je suis travaillé. Avant ma conversion, j'étais un voleur et je volais beaucoup de choses à l'usine. Et certaines de ces choses sont encore chez moi. Et ça ne me laisse pas tranquille. Je ne suis plus en paix. Et j'aimerais que tu m'aides à faire le nécessaire pour que je puisse restituer ce que j'ai volé. » Le risque était grand. Il risquait de perdre sa place. Et on a prié ensemble. On s'est donné la main, on s'est mis dans un coin, on a prié ensemble et on a demandé au Saint-Esprit de nous guider. De mon côté, j'ai commencé à préparer le terrain et lui-même, quelques jours après, avec une caisse, il a mis tout ce qu'il avait à la maison et tout ce qu'il avait chapardé à l'usine, ce qui lui restait encore, il l'a ramené. Et il a été voir son supérieur et lui a expliqué. Il dit « Voilà, j'ai un problème de conscience ». Et vous savez ce qui s'est passé, c'était extraordinaire. Bien sûr, son supérieur en a parlé à son supérieur à lui et ainsi de suite. Ça fait beaucoup de bruit cette affaire. C'était très très rare ce genre d'affaire. C'est pas rare que le patron se fait voler, mais que quelqu'un revienne rapporter ce qu'il a volé, ça c'est plutôt rare. Et ça fait pas mal de bruit dans l'usine. Vous savez, dans cette usine, on était nombreux. À l'époque, on était 15 000 personnes. Et ça a été extraordinaire, parce que l'un des responsables est venu voir mon frère et lui a dit « On est très surpris par votre geste et aujourd'hui, on sait qu'on peut vous faire confiance. » Et peu de temps après, eh bien, cette confiance s'est traduite par une évolution de carrière et une augmentation de salaire. La bénédiction de Dieu, parce que tout simplement, le frère a eu le courage. Il fallait le faire. C'était pas simple. Mais il a eu le courage de le faire. Il a restitué ce qu'il a volé. Dieu nous encourage à rectifier nos erreurs, à renouer aussi nos relations avec ceux avec qui nous n'avons plus de relations. Parfois, je rencontre des gens viennent me voir dans mon bureau et me disent « Mais frère, vous savez, moi, je ne parle plus avec mes parents depuis des années et des années. » La Bible nous dit « Honore ton père et ta mère. » Renouons avec les membres de nos familles avec qui nous sommes fâchés si nous voulons recevoir la bénédiction. Arrêtons d'idolâtrer parfois nos enfants ou autre chose. Ce sont des erreurs à rectifier dans nos vies. Corrigeons le tir vis-à-vis de nos patrons. Parfois, j'entends des gens qui viennent me dire « Ah, pasteur, vous savez, mon patron, c'est un voleur. Alors parfois, je me rembourse. Je vais voir le médecin. Je lui dis que je suis très fatigué. Et puis, je reste 8 jours à la maison. C'est équitable. Non, c'est du vol. Enfin, pour moi, c'est mon point de vue. Je ne crois pas que ce soit juste devant Dieu. Il y a plein d'exemples comme ça, je ne veux pas m'étaler, mais Dieu nous encourage à rectifier nos erreurs, à devenir des modèles, des exemples. Paul est devenu une référence dans l'histoire. Il est devenu une référence. Et le désir de Jésus, c'est que nous aussi, nous devenions des références. Alors certains vont dire, oh, mais moi je suis pas l'apôtre Paul. Le désir de Dieu, je vous le dis ce soir, c'est que nous devenions tous des références pour tous ceux qui nous entourent, qui nous regardent, qui nous observent, qui nous voient vivre, qui travaillent avec nous, qui vivent avec nous. Des références dans la société, pourquoi pas? Pourquoi pas marquer l'histoire? Moi, je serais fier qu'on dise un jour, eh bien, Christian, il est mort depuis longtemps, mais on parle encore de lui parce qu'il a marqué l'histoire. Ce n'est pas de la prétention. Je crois que vraiment Dieu veut nous utiliser pour marquer l'histoire. L'église de Bourg-Tillières. Il y avait des miracles dans cette église et j'espère qu'il y en aura encore dans un siècle. Est-ce que vous espérez cela? Mais alors c'est à nous de travailler si vous espérez cela. C'est à nous de former la génération qui vient, les générations qui arrivent. C'est à nous de les encourager. C'est à nous de leur donner des exemples, de devenir des modèles pour que cette génération puisse adhérer à ce que nous croyons aujourd'hui. La quatrième chose que le constructeur du crayon va dire à sa création, il va lui dire, la partie la plus importante de toi, c'est ton intérieur. Et ici, c'est la mine, hein? La mine du crayon. On n'en voit qu'une petite partie. Et dans nos vies, c'est la même chose. Ce qui fait ma personnalité, c'est pas mon corps. J'ai un corps comme un autre avec une tête, un tronc, deux jambes, deux bras. Et le reste qui va avec. Mais ce qui fait moi, ce qui fait Christian, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. Parfois, il y a des gens qui souffrent tellement et sont nombreux qu'ils ont une façade dans la vie. Et on ne voit même pas la pointe, vous savez, la pointe, elle est cassée, là, je la casse exprès. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de pointe. Elle a disparu. Et les gens vivent. On a une image d'eux qui est complètement fausse et on ne sait pas ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et c'est terrible. Il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Parfois même, les gens disent, mais je ne sers à rien. Et c'est vrai qu'un crayon comme ça, il ne sert à pas grand-chose. Hein, il n'y a plus de pointe, il n'y a plus de mine. Il n'y a que de la souffrance. Il ne sert à rien ce crayon. Et c'est, certains viennent me voir et disent, « Pasteur, moi, je ne sers à rien. Je ne sers à rien, je suis rien, je suis mauvais. Je n'ai pas d'avenir, je n'ai pas de but dans ma vie. » Parfois, on est atteint dans notre vie par des épreuves terribles. Des épreuves terribles, et on est brisé, cassé, comme le crayon là, je casse. Et on se dit, tout est fini, c'est fichu. Mais dedans, quand on regarde, il reste encore un bout. Il y a toujours la vie. L'essentiel est toujours à l'intérieur. Et l'essentiel, Dieu veut s'en occuper. Ce qui est à l'intérieur de nous, Dieu veut s'en occuper. Ce qui est mon âme, c'est cela qui intéresse Dieu. C'est pas mon corps qui intéresse Dieu. Bien que mon corps l'intéresse quand même, quand je suis en mauvaise santé, je crie à Dieu, l'Éternel me touche, il me guérit. Mais ce qui l'intéresse davantage encore, c'est ce qu'il y a dedans. Et Dieu nous proposera, après cette cassure, après cette brisure, après cette terrible épreuve peut-être, après le deuil, après l'accident, après la terreur, il proposera de repasser son taille-crayon. Il va reformer, il va redonner de l'espérance, une vie, et tu vas pouvoir resservir à quelque chose. Même plus que ça, il va aiguiser les deux pointes. Dieu veut nous utiliser de manière puissante. Quand tu es brisé par l'épreuve, la vie s'arrête pas, elle continue. Elle continue, et si nous savons faire confiance au Seigneur, la vie reste belle, elle vaut la peine d'être vécue. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, verset 28, il est écrit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire disparaître l'âme et le corps. » Dans la GN. Nous devons craindre l'ennemi de l'âme, Satan. Mon être intérieur, c'est ce qui fait ma personnalité. Et je l'ai déjà dit souvent, vous pouvez vous analyser vous-même. Moi, j'ai 51 ans. Même si le corps n'est plus comme un corps de 20 ans, je n'ai pas trop à me plaindre encore. J'arrive à marcher, j'arrive encore à courir. Mais je n'ai plus la même pêche qu'à 20 ans. Mais dedans, à l'intérieur, on a toujours le même âge. Vous avez remarqué ça? On a toujours le même âge. Je parlais l'autre jour avec ma grand-mère qui a 95 ans et elle me parlait de diverses choses et de son enfance. Et à un moment, elle me dit, mais c'est marrant parce que là-dedans, on a toujours 20 ans. Je dis, mais tu as raison, grand-mère. Tu as tout à fait raison, parce que là-dedans, on ne vieillit pas. On est fait pour vivre éternellement avec le Seigneur. Notre âme n'est pas faite pour mourir. Elle est faite pour vivre éternellement. Et un dernier point que le créateur du crayon laissera, c'est un encouragement à son crayon. Quel que soit l'endroit ou la condition dans laquelle tu te trouves, continue à écrire un signe clair. Même si la situation est difficile, Dieu désire que l'on reconnaisse ses enfants, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce que l'on reconnaît en moi un chrétien? C'est la question que je dois me poser. Quelle que soit la situation où je me trouve, quel que soit l'endroit où je vis, quel que soit l'endroit où je travaille, est-ce que l'on reconnaît en moi un chrétien, un enfant du Seigneur? C'est une question importante. Dans la Bible, nous avons l'exemple de Daniel. Daniel, il y a eu un édit écrit par les satrapes du roi Darius où on interdisait à quiconque de prier n'importe quel dieu sauf le roi Darius. On voulait que les gens se prosternent devant le roi Darius et qu'on prie le roi Darius. Mais Daniel, lui, aimait Dieu. Dieu était tout pour lui. Et Daniel, ne pouvait pas obéir à un tel précepte. Daniel a continué à prier son Dieu. Le résultat, c'est qu'on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais même dans la fosse aux lions, Dieu était avec lui. Et même quand on est dans la fosse aux lions, Dieu est avec nous. Quelle que soit la situation, reste un témoin fidèle. Ne fais pas de compromis avec l'ennemi, jamais. Reste fidèle. Tu n'as pas à te justifier devant les hommes. C'est Dieu qui nous justifie. Et le seul devant qui nous devons nous justifier, c'est Dieu. Et lui, il nous voit. Il voit tout. Il voit tout ce que l'on fait. Je vais conclure. Je dirais simplement que nous ressemblons tous à un crayon, créé par Dieu, pour un but spécial et unique. Tu as été fait pour accomplir de grandes choses avec Jésus. C'est le message que ma femme m'a laissé pour m'encourager. Je lui laisse aussi. Tu as été créé pour accomplir de grandes choses avec Jésus et pour Jésus. Tu as été créé pour laisser des traces. Vous avez envie de laisser des traces ? Est-ce que vous avez envie de laisser des traces au moins à vos enfants ? Au moins ? Et plus si affinité. Dieu veut que nous laissions des traces. C'est son désir. Il nous a jamais dit de vivre en cachette incognito, moins on en sera sur vous, mieux ça vaudra. C'est pas ce qu'il a dit. Pas du tout. Il a pas dit vivez dans le secret. Le crayon est un petit objet qui, dans la main d'un expert, est capable d'écrire des choses indélébiles, capable de révolutionner la vie d'une multitude de personnes. Le crayon, dans la main de Dieu, nous a donné ce livre extraordinaire qu'est la Bible, parole de Dieu. Ce livre écrit par Dieu lui-même pour nous encourager, pour nous faire du bien, pour nous libérer, pour nous donner un avenir et de l'espérance, comme le dit Jérémie. Seul ce livre est capable de changer le monde aujourd'hui. Est-ce que vous croyez ça? Il n'y a pas un homme, pas un président de la République, quelle qu'elle soit, qui est capable de changer la vie des gens. Seule la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu, lue et prise au sérieux, va changer la vie des personnes. Elle a changé ma vie et elle n'arrête pas de le faire. Elle continue sans arrêt à changer ma vie. Et j'en suis heureux. Avons-nous compris les motivations de Dieu qui nous a créés? Il veut se servir de nous pour accomplir de grandes choses. Notre Seigneur veut faire de nous des personnes qui, jour après jour, deviennent meilleurs. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur? Moi, j'ai envie de devenir meilleur. Je demande parfois à ma femme si elle me trouve meilleur. Alors parfois, elle me dit, t'es comme le pinard. Avec le temps, tu te bonifies. J'ai envie de devenir meilleur pour le Seigneur. Changer. Dans le livre premier, dans le premier livre des Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, Paul nous parle et nous dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est pas marqué de marcher à cet égard de pire en pire. De progrès en progrès. Je progresse. Dans le premier livre de Timothée, au chapitre 4, verset 13, Paul encore parle, je lirai dans la traduction français courant, « En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'Écriture, c'est ce que nous faisons ce soir, à exhorter, à enseigner, verset 14, ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes, Dieu nous a donné des dons. Celui qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi, applique-toi à tout cela, donne-toi entièrement à la tâche. » Alors tous verront tes progrès. Le désir de mon cœur ce soir, c'est que tous ceux qui me connaissent voient mes progrès. Et je ne dis pas ça par orgueil, c'est tout simplement parce que je veux vraiment plaire à mon Seigneur. Je veux vraiment lui obéir, peu importe le prix que ça me coûtera. Alors ne dis plus dans ton cœur, je suis rien, je peux rien faire, je ne sers à rien. Mais écris ton histoire, Écris ton histoire avec Jésus-Christ. Écris ton histoire avec Jésus. Écris-la. Je termine par cette petite histoire. C'est une mésange qui s'adresse à une colombe. Et elle dira à la colombe, « Dis-moi, ça pèse combien un flocon de neige ?» Et la colombe va lui répondre, « Mais un flocon de neige, ça pèse rien. » Ça pèse rien. Un flocon de neige, ça pèse pas. Ça pèse moins que rien. Attends, colombe, je vais te raconter ce que j'ai vu l'autre jour. J'étais sur une branche quand il a commencé à neiger. Une petite neige, tranquille, sans bruit, sans tempête. Comme je n'avais rien d'autre à faire, je me suis mise à compter les flocons qui tombaient sur ma branche. J'en ai compté 3 751 952. Et quand le 3 751 953e est tombé, ma branche a craqué. Même si ça pèse pas, même si c'est moins que rien, eh bien figure-toi que ma branche a cassé. Alors la colombe se met à réfléchir et dira peut-être ne manque-t-il finalement que le geste d'une seule personne pour que bien des choses changent et pour que beaucoup de gens vivent mieux. Certains diront peut-être, je ne sers à rien, je ne pèse rien, je ne pèse pas, ce n'est rien, je ne suis rien, je ne suis pas assez fort, pas assez doué, je n'ai pas d'argent, je sers à moins que rien. Alors souvenez-vous du flocon de neige, le dernier, celui qui a fait craquer la branche. Pas les autres, le dernier. Celui qui a fait basculer les choses. Perdu dans la masse des gens. Dieu est capable de nous choisir pour faire quelque chose d'extraordinaire à un moment donné, à un moment précis de notre vie. On ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais c'est le choix de Dieu. C'est ma prière aussi. Dis, Seigneur, je me tiens à ton service. Si je peux bouleverser la vie de quelqu'un, utilise-moi. Il n'y a pas de petits talents, pas de petits dons, ni de petites actions. Il y a seulement des engagements, vécus avec le cœur et vécus avec l'amour de Jésus qui transforme tout. L'amour de Jésus, cet amour rempli de passion et qui nous donne ensuite la passion des âmes à nous-mêmes et qui va nous permettre d'aller de l'avant et de sauver celui qui peut-être est dépressif, celui qui pense au suicide, celui qui veut mourir parce qu'il ne sert à rien. Rappelez-vous de l'histoire du crayon. Je veux simplement m'arrêter maintenant et vous faire voir le PowerPoint. On reste dans le silence, on le regarde tranquillement et Samuel terminera eh bien simplement cette réunion avec nous.
Eh bien, que Dieu nous aide. Ma femme m'a dit tout à l'heure, moi je veux être un crayon HB, hautement béni. Vous savez ce qui est extraordinaire ce soir? C'est que Dieu ne s'est pas contenté de faire des crayons, mais il a fait des crayons de couleur. C'est-à-dire que l'un va faire un trait rouge, un autre un jaune, un autre un vert, mais nous avons les uns besoin des autres pour compléter l'ensemble du dessin. Il n'y a personne qui ne soit inutile. Vous avez tous, et nous avons tous notre place dans le cœur de Dieu, que son nom soit béni. Hier, je visitais un homme à l'hôpital. Puis alors, c'était assez intéressant, mais je ne l'avais jamais vu, lui ne m'avait jamais vu non plus. Et je rentre chez lui, il était malade. Et je me suis dit, je vais lui parler de Jésus. Chaque fois que j'essayais de lui parler de Jésus, il me parlait d'autre chose. Et puis quand j'arrivais un tout petit peu à parler de Jésus, dès que quelqu'un rentrait, il dit, chut, moins fort. On ne sait pas ce que les gens peuvent penser de nous. Alors il me faisait rire parce que lui, il avait un grand crucifix avec au moins 10 médailles. Ça faisait un peu sapin de Noël le truc là, mais dès que je parlais un peu de Jésus trop fort mais j'arrivais pas à en placer une. Alors je l'écoutais, il m'a expliqué tout ce qu'il a fait, ses campagnes de guerre, etc. Puis je disais Seigneur, mais quand même permets-moi à un moment donné d'en placer une juste Pourtant, en général, je suis pas mauvais de ce côté-là, hein, mais alors là, il m'a battu à plate couture, j'étais... Et puis, au bout d'un moment, dans sa discussion, il me dit, voyez-vous, monsieur, par exemple, les pitbulls. Je disais, qu'est-ce que les pitbulls viennent faire là-dedans? Les pitbulls, ils sont pas méchants. Tout dépend du maître qu'ils ont. En fait, le chien ressemble à son maître. Je lui dis, eh bien, c'est exactement ça, monsieur. Quel est votre maître? Parce que c'est à lui que vous allez ressembler. Mon maître, c'est Jésus. Et vous, votre maître, qui est-ce? Enfin, j'avais pu commencer à lui parler. C'était un peu violent comme introduction. Mais c'est marrant, il m'a compris. Suivant le maître que vous servez, vous allez être. Si votre maître, c'est le Seigneur, vous allez devenir un crayon utile. Si votre maître, eh bien, c'est l'ennemi de nos âmes, il vous brisera. Vous ne servirez jamais à rien. Que Dieu nous aide. Fermons nos yeux un instant, Père.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.